besoin d'attendre plus longtemps, je sais qu'il est temps de faire.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 26 avril 2022. En direct de Washington, Idrissa Sédoudia
et Mohamedou Oumfa.
Nous commençons par les titres.
Deux soldats tués, une centaine de terroristes neutralisés lors d'une opération conjointe Burkina-Niger à la frontière des deux pays.
Le Burkina n'entend pas écourter la période de transition de 3 ans. Comme ses voisins ouest-africains le lui avaient demandé.
Le premier procès en Centrafrique de la Cour pénale spéciale, chargé de juger des crimes de guerre, s'est ouvert lundi à Bangui et a aussitôt été renvoyé au 16 mai.
Washington réunit ses alliés en Allemagne pour armer davantage l'Ukraine. Moscou met en garde contre une troisième guerre mondiale.
Ici aux États-Unis, un juge empêche le président Joe Biden de lever des restrictions à l'immigration liées à la pandémie de Covid-19.
10 000 dollars d'amende par jour pour l'ancien président Donald Trump tant qu'il ne coopérera pas à une enquête fiscale. Sanction infligée par un juge américain.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Deux soldats ont été tués et une centaine de terroristes neutralisés à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger. C'était lors de l'opération conjointe Tanli 3 menée par les deux pays. Nathalie Barge nous en dit plus.
Les armées des deux pays appuyées par des avions de combat ont mené cette opération conjointe du 2 au 25 avril. Deux militaires ont été tués et 2 autres blessés. Indique un rapport présenté à Dori, dans le nord du Burkina Faso. En présence des chefs militaires burkinabais et nigériens, le colonel David Cabré et le général Salifou Modi. Une centaine de terroristes ont été tués et au moins 40 suspects interpellés. De l'armement a été saisi et des bases logistiques ont été détruites ou démantelées, selon le rapport. Parallèlement, les armées nigériennes et burkinabées ont indiqué avoir mené des opérations de ravitaillement en vivres des populations des zones concernées et leur avoir apporté une assistance médicale. Le succès des opérations Tanli témoigne de l'excellence de la coopération militaire entre le Burkina Faso et le Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, souligne le rapport conjoint.
Le gouvernement du Burkina Faso n'entend pas écourter la période de transition de 3 ans, annonce faite hier lundi par son porte-parole alors que la CEDEAO lui avait donné jusqu'à hier 25 avril pour présenter un chronogramme Abdourahman Dia.
Selon Lionel Bilgo, les discussions se poursuivent. Le Burkina Faso est dans une très bonne disposition à entendre les remarques de la CEDEAO. Il a toutefois ajouté que le gouvernement n'allait pas sacrifier ses efforts pour ramener la paix au Burkina Faso en courant derrière un calendrier intangible et dont le délai ne tient pas compte des réalités du terrain. M. Bilgo estime que la sécurisation du territoire doit primer sur l'organisation d'élections. Pourquoi mettre en danger des vies humaines alors que notre priorité principale est de sécuriser le territoire, s'est-il interrogé. Dans un discours à la Nation début avril, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo-Damiba avait indiqué que la période de transition de 3 ans a été décidée de façon consensuelle. Fin mars, un sommet de la CEDEAO à Accra avait donné au Burkina Faso jusqu'au 25 avril pour présenter un chronogramme acceptable de la transition sous peine de sanctions économiques et financières.
La principale alliance djihadiste au Sahel dit détenir, depuis la première semaine d'avril, un Russe, membre de la société militaire privée Wagner, capturé dans le centre du Mali. C'est la première fois que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda annonce la capture d'un Russe engagé sur le front de la lutte anti-djihadiste au Mali. Selon l'agence France Presse, le groupe n'a cependant pas fourni de preuves permettant d'attester de la véracité de son annonce faite par voie de communiqué dans la nuit de dimanche à lundi.
Au Nigeria, les autorités ont rassemblé hier les corps calcinés de plus de 100 personnes décédées lors d'une explosion dans une raffinerie illégale du sud du pays. Les victimes seront enterrées aujourd'hui après cet accident qualifié de catastrophe par le président Muhammadu Buhari. Les détails avec Jean-Roger Bion.
L'explosion survenue vendredi entre les États de Rivers et d'Imo est l'une des pires ces dernières années dans cette région. Elle a fait 110 morts selon les autorités. Un responsable local de l'Agence nationale de gestion des urgences a expliqué que les corps étaient calcinés, ce qui a rendu difficile l'identification des victimes par les familles. Une enquête a été diligentée pour déterminer les causes de l'explosion. De son côté, le président Muhammadu Buhari a évoqué une catastrophe nationale dans une déclaration publiée par ses services. Il a également appelé les forces de l'ordre à intensifier la répression des raffineries clandestines. Les groupes armés et habitants siphonnent régulièrement le brut des pipelines appartenant aux grandes compagnies pétrolières qu'ils raffinent ensuite sur des sites illégaux et revendent au marché noir. Ces vols de pétrole et le raffinage illégal entraînent des pertes considérables pour le Nigeria, plus grand producteur de brut en Afrique.
En Centrafrique, le premier procès de la Cour pénale spéciale, ouvert lundi à Bangui, a aussitôt été renvoyé au 16 mai. L'ouverture de ce procès, 7 ans après la création de cette cour, avait déjà été reportée à cause de l'absence des avocats de la défense. Le point avec Nani Talani.
Je renvoie l'audience au 16 mai 2022 à la demande des avocats de la défense, a conclu le président de la Chambre, Aimé Pascal Delimo, au terme de cette première journée. Paul Yakoula, avocat d'Ousmane Yaouba, un des accusés, a déclaré qu'il y a encore des petits détails sur lesquels il voudrait travailler. Ce procès est censé juger Ousmane Yaouba, Issa Salet Adoum et Tahir Mahamat, tous membres d'un des plus puissants groupes armés, les 3R. Ils sont accusés du massacre le 21 mai 2019 de 46 civils dans les villages du Nord-Ouest, Koundili et Lemouna. Les trois hommes, dans leur combinaison orange, sans menottes et dos au public, sont restés impassibles à la lecture de l'acte d'accusation, meurtre et torture, atteinte à la dignité des personnes, traitement inhumain et autres actes dégradants. Créé en 2015 par le gouvernement avec le parrainage de l'ONU, la Cour pénale spéciale est une juridiction unique au monde composée de magistrats nationaux et internationaux chargés de juger des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis depuis 2003.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis réunissent ce mardi en Allemagne une quarantaine de pays alliés pour armer davantage l'Ukraine face à l'envahisseur russe, dont le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov a mis en garde contre un risque réel d'une troisième guerre mondiale au lendemain d'une visite en Ukraine des responsables américains des affaires étrangères et de la défense, Anthony Blinken et Lloyd Austin.
Parlant des Ukrainiens, M. Austin a dit qu'ils peuvent gagner s'ils ont des bons équipements, le bon soutien. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui estimé que la victoire ukrainienne n'était qu'une question de temps. L'annonce hier d'une nouvelle aide militaire américaine de 700 millions de dollars à l'Ukraine porte l'assistance de Washington à 3,4 milliards de dollars.
Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a été condamné hier par un juge de New York à payer 10 000 dollars par jour tant qu'il refusera de fournir des documents comptables et fiscaux dans le cadre d'une enquête au civil sur son groupe. Michel Joseph.
Donald Trump devrait payer 10 000 dollars par jour, plus de 5 millions de francs CFA chaque jour, s'il va continuer de défier l'ordre de la Cour de remettre des documents à mon bureau, s'est félicité l'élu démocrate Letitia James, procureure générale de l'État de New York. Elle poursuit une enquête depuis mars 2019 sur d'éventuelles fraudes de la Trump Organization sur des immeubles, des hôtels et des terrains de golf. Le 17 février, Letitia James a obtenu qu'un juge de la Cour suprême de l'État de New York, Arthur Engoron, ordonne à l'ancien président et ses enfants, Donald Trump Jr. et sa fille Ivanka, de témoigner dans le cadre de cette enquête. Les Trump, qu'il accuse de motivation politique, ont déjà fait appel. La procureure générale de New York soupçonne la Trump Organization d'avoir frauduleusement surestimé la valeur de propriété immobilière lorsqu'elle demandait des prêts bancaires et de les avoir sous-estimés auprès du fisc pour payer moins d'impôts. La Trump Organization et son directeur financier, Alan Weisselberg, un fidèle de l'ancien président, ont été inculpés de fraude fiscale et ont plaidé non coupables. Le procès doit s'ouvrir cette année.
Par ailleurs, M. Trump a exclu lundi de revenir sur Twitter, dont il a été banni en janvier 2021 malgré le rachat du réseau social par le milliardaire Elon Musk, annoncé le même jour. « Je reste Truth », a-t-il déclaré à Fox News. Truth Social est la plateforme qu'il a lancée en février et présentée comme une alternative conservatrice à Facebook, Twitter et YouTube. Elle est minée par des problèmes techniques.
La Minute Éco, Clermont-Régibourg.
Au Niger, le gouvernement a signé une convention minière avec la société Central Global Access International pour un permis de recherche d'uranium et de substances connexes à Ingal, dans la région d'Agadez. D'après l'exécutif, Central Global Access s'est engagé à investir un montant minimum de 1,2 milliard de francs CFA sur les trois premières années. Au Togo, les députés ont approuvé à l'unanimité le projet d'adhésion au Commonwealth. Selon le ministre Christian Trimua, cette adhésion a beaucoup d'enjeux avec la possibilité de bénéficier de nouveaux financements ou de pouvoir exporter sur un vaste marché de plus de 2 milliards de consommateurs. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé hier que l'économie de son pays était en train de se stabiliser après avoir été frappé par les sanctions occidentales. Une résilience due, selon lui, à la bonne santé du rouble et à la demande des consommateurs. Certains économistes estiment toutefois que le pire est à venir à mesure que l'impact des sanctions sera de plus en plus visible.
Merci Claire. À présent, les sports avec Nanit Talani.
Bonjour Idrissa. Bonjour à tous. La FIFA annonce le lancement d'une nouvelle plateforme en ligne pour le traitement des procédures judiciaires à partir du 1er mai 2022 dans le cadre de son engagement continu à moderniser le cadre réglementaire. C'est là que les procédures devant le tribunal de football et les instances judiciaires de la FIFA seront menées. Le portail permettra aux parties prenantes du football, telles que des clubs, joueurs, associations, intermédiaires, cabinets d'avocats dotés d'une procuration et toute personne impliquée dans la procédure, à déposer des réclamations simplement sans passer par des emails. Il s'ajoute à la plateforme de dénonciation qui existe déjà. Au Togo, le Centre de formation sportive, éducative et culturelle, SWALOS, s'est doté d'un cours de tennis après le football, le basketball, le taekwondo et le maracana. Le terrain a été inauguré dimanche dans la capitale togolaise et est dénommé Académie SWALOS de Lomé. Le tennis va permettre aux amateurs, jeunes et adultes, d'apprendre et ou de se perfectionner. Créée en 2013, l'Académie SWALOS s'inscrit dans une politique d'éducation et de formation sportive progressive. Le président de la CAF, Confédération africaine de football, le Dr Patrice Motsepe, est arrivé à Gaborone au Botswana hier lundi, où il est conférencier et participant au sommet Forbes Under 30 Africa qui se déroule depuis dimanche. Pendant ce programme de 4 jours, M. Motsepe abordera un certain nombre de questions pertinentes concernant la croissance du football africain. Pour terminer, le gouvernement britannique annonce la création d'un régulateur indépendant du football anglais pour s'assurer que son financement soit durable, et cela malgré les objections de la Premier League, le championnat le plus riche du monde, qui gère la première division locale. Les ministres souhaitent qu'un régulateur indépendant surveille les finances des clubs et dispose du pouvoir de leur accorder des licences et de les sanctionner. Ce souhait est intervenu après certains scandales. Selon les experts du cabinet d'audit Deloitte, Pendant la période 2018-2019, avant le Covid-19, les clubs de la deuxième division anglaise dépensaient en moyenne 107% de leurs revenus en salaire, bien au-delà des nouveaux objectifs fixés par l'UEFA, à savoir 70%. Londres souhaite également qu'un tel régulateur mette en place de nouvelles procédures d'évaluation des propriétaires des clubs, en pratiquant notamment un test d'intégrité. Tout cela sur fond de vente en cours de Chelsea FC par son propriétaire russe Roman Abramovich, l'oligarque russe visé par des sanctions après l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Le ministre britannique des Sports, Nigel Huddleston, se dit convaincu que des changements radicaux sont nécessaires pour préserver l'avenir du football anglais.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La réélection du président français Emmanuel Macron est bien entendu commentée en Afrique, surtout au Sahel. Au Burkina Faso, ils sont nombreux à se dire que c'est une continuité qui ne changera rien à la situation sécuritaire. Mais pour beaucoup, cela donnera une nouvelle dynamique dans les pays du Sahel, où sévit de plus en plus un sentiment anti-français. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
Emmanuel Macron réélu pour 5 ans à la tête de la France. Une élection suivie à des milliers de kilomètres en Afrique. Est-ce que cela devrait changer quelque chose à la situation sécuritaire du Burkina Faso? Les Burkinabés répondent.
Moi, je pense que cela ne devrait pas changer quelque chose dans la situation du terrorisme au Sahel ou précisément au Burkina Faso. Ces deux pays entretiennent certes des relations diplomatiques ou d'une autre nature. L'élection d'un président en France ne devrait pas influencer de l'avenir ou de la situation d'un pays en Afrique. Ce sont nos acteurs, nos gouvernants et nous-mêmes qui devons être en même d'enclencher le changement que nous voulons constater ici. Ça ne devrait pas reposer sur l'élection d'un président.
On n'a qu'à se lever. Les Français sont là pour nous. C'est pour leur intérêt. Les Français luttent pour leur intérêt. On n'a qu'à se lever pour lutter pour que la France quitte même notre pays. Et moi, je demande, en tout cas, c'est la Russie qui m'intéresse. On n'a qu'à amener la Russie dans notre pays là. Le Mali est en paix et nous, nous sommes là.
Macron va détruire l'Afrique. Parce que c'est un gars depuis qu'il est venu au pouvoir là. Il n'a jamais arrangé l'Afrique. Tout ce qu'il fait là, c'est pour détruire l'Afrique.
Moi, je n'aime pas la femme là. Elle est en train de voir que les voiles, les quoi, même les Africains, ils ne sont pas d'accord. Mais Macron là aussi, je ne l'aime pas. La France là, l'Europe là, en train de nous appuyer et nous créer des problèmes. Si Dieu nous permet, les Africains vont gérer leur sous-sol là.
Paul Oumarou Kualaga est spécialiste des relations internationales.
Avec la dégradation de la situation sécuritaire dans ces différents États, on a vu monter en puissance un certain nombre d'opinions demandant à ce qu'il y ait une certaine sorte de diversification de partenariat, à explorer d'autres partenaires beaucoup plus robustes, notamment faire appel à la Russie. J'imagine qu'avec cette réélection, il va falloir réamorcer un certain nombre de changes, de contacts.
Le week-end dernier, des manifestants sont descendus dans les rues à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso pour réclamer le départ de la France et réclamer la Russie dans la lutte antiterroriste. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Bénin, les partis politiques de toutes les sensibilités sont invités à se mettre au pas pour participer aux élections législatives fixées au 8 janvier 2023. Un défi à relever pour le gouvernement du président Patrice Talon, qui tient là l'opportunité de faire oublier aux Béninois les violences qui avaient émaillé les élections de 2019. Nous dit notre correspondante sur place. Qu'attendent les partis politiques, surtout de l'opposition, de ces nouvelles élections législatives de Cotonou? Notre correspondante, Ginette Fleur Adondé.
À quelques mois des législatives de janvier 2023, c'est encore la confusion au niveau des états-majors de certains partis politiques. La crainte d'un scénario de rejet de plusieurs dossiers est grande. L'heure est au débat sur les positionnements à la recherche de potentiels candidats pour couvrir l'ensemble des 24 circonscriptions. Pour Alassane Tigré, troisième vice-président du Parti Les Démocrates de Riki Ahmadougou, pas question que le parti soit absent des législatives une nouvelle fois.
Les démocrates, nous avons vocation à accéder au pouvoir. Les législatives qui pointent à l'horizon sont naturellement une opportunité pour nous de prendre part à ces joutes électorales et de pouvoir venir à l'Assemblée nationale. Vous savez vous-même que l'Assemblée telle qu'elle est actuellement, elle est monocolore. Les mandatures qui ont retenu l'attention des Béninois, c'est les mandatures où il y avait une opposition vivace qui jouait son rôle.
Il faudra donc que chaque formation politique affronte les différents obstacles contenus dans les lois électorales pour être retenue sur la liste définitive des compétiteurs. Pour Annick Dimanja, qui est une femme politique, même si la date est courte de quelques mois, le mandat en cours, cela reste une opportunité à saisir par les partis qui se plaignent d'avoir été écartés, de montrer qu'ils veulent vraiment jouer leur rôle dans le jeu démocratique.
T'as l'avantage de fixer tous ceux qui interviennent dans le processus électoral dans notre pays. C'est également un signal fort pour ces partis qui n'avaient pas eu l'opportunité de se présenter, d'être représentés à l'Assemblée nationale pour la 8e législature.
Pour Mariam Baba Moussa, députée de la 8e législature en fin de mandat, tous les acteurs politiques doivent jouer leur partition.
Je crois que les partis politiques respectifs ont été informés, ont eu des séances avec la Sénat, et chaque parti va se réorganiser. En ce qui concerne les femmes, mon vif souhait, c'est que les 24 places dont nous disposons, en plus de celles qui vont émerger tout naturellement, et que les positionnements soient très bien faits, parce que si on ne tient pas compte de la qualité de ces femmes leaders et qu'on rate le choix, eh bien, le parti peut rater le coach et puis ça va être une perte pour le parti.
Au niveau de la population, on espère que ces élections qui vont tomber sur une période des fêtes de fin d'année permettra d'éviter les violences. Arsène Peignan est un artisan.
On ne peut pas, compte tenu de la fête du 1er janvier, bâcler les élections des députés. On ne doit pas le faire parce que chaque jour, c'est la fête. Chaque jour que Dieu fait, c'est la fête. Nous devons savoir que même le 8 janvier, là, après les élections, ils peuvent même fêter.
Aristide Ronville n'est pas de cet avis. Pour lui, dont la boutique a été brûlée durant les violentes manifestations de 2019, il faut des préalables avant l'organisation des élections.
Écoutez, moi je ne sais même pas s'il y aura élection, puisque le peuple est mécontent. Il y a des prisonniers politiques en pleine période démocratique.
De Cotonou, Jeannette Fleur-Adonné pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale a enregistré 5833 cas de grossesse en milieu scolaire, dont 233 au primaire. L'ampleur de ces grossesses inquiète le gouvernement, qui cherche à lutter efficacement contre ce phénomène. Un reportage de notre correspondante à Abidjan, Delphine Boyce.
Les grossesses en milieu scolaire, malgré toute la sensibilisation faite sur le sujet, le nombre est toujours en hausse. Les chiffres eux-mêmes font peur. Mamadou Fofana est le directeur de la planification et des statistiques au ministère de l'Éducation nationale.
Nous avons enregistré cette année 233 cas de grossesse au primaire et 5600 dans le secondaire. Et les régions les plus impactées par cette de grossesse. Pour le primaire, c'est le Bekè qui vient en tête, ensuite sur le Gontougou. S'agissant du général, nous avons d'abord Abidjan et le Gontougou et les tranches d'âge au primaire, moins de 12 ans et 12 ans et plus dans le secondaire.
Une des victimes dont nous protégeons l'identité répond aux initiales de GM, partage cette amère aventure d'élèves ayant contracté une grossesse à l'école.
J'étais en classe de 3e et voilà, j'ai contracté cette grossesse. Et celui qui m'a engrossé, il était étudiant, il m'a laissé tomber en fait. Et quand j'ai accouché, je vous assure que je n'avais pas une assistance médicale. et l'enfant et moi, nous étions malades. Et l'enfant est décédé à un mois de semaine.
Subir les effets d'une grossesse précoce, puis perdre son enfant est quelque chose de terrible pour GM, suite de son témoignage.
Il y a plusieurs conséquences. Sur le plan même scolaire, ça n'allait pas. J'étais rejetée et ne plus avoir la force de reprendre le chemin de l'école. Cet aspect de ma vie m'a marqué psychologiquement. Ça m'a mise dans une situation dépressive.
Face à cette situation dramatique pour les jeunes filles et jeunes futures mères, les Ivoiriens réagissent. Mel Emmanuel Amani est interprète traducteur.
C'est un phénomène qui met à mal l'éducation ivoirienne.
Okowe Michael, étudiant en philosophie.
Les parents trouvent que le sexe est un sujet tabou.
Dame Karen Siri.
Il y a beaucoup de raisons. L'irresponsabilité des parents. Également, il y a un laisser-aller même au niveau aussi de l'enfant.
Les grandes perdantes sont les filles et un enfant se fait souvent à deux. Qu'en dire des pères? Mamadou Fofana situe les responsabilités.
Les auteurs, c'est généralement élèves et étudiants, le personnel d'éducation et les petits métiers.
Pour Karine Siri, il faut plus de communication entre les parents et les enfants.
Je parle de sexualité avec mes enfants.
Brahima Traoré est le directeur régional du ministère de l'Éducation nationale de Korogo dans le nord du pays.
Au niveau de l'encadrement, les jeunes filles sont adolescentes, c'est une période assez difficile.
Le programme des Nations Unies pour la population participe à la campagne dite zéro grossesse à l'école. Docteur Konan Yaou, chargé de programme jeunes et adolescents à l'UNFP Côte d'Ivoire.
Le premier pilier, c'est l'éducation en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Le deuxième élément, c'est les campagnes multimédia.
La plupart des jeunes filles enceintes sont obligées de quitter l'école et commencer une nouvelle vie plus difficile car sans argent, il faut pouvoir nourrir et élever son enfant. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Le président malgache, Ange Rajoel, était la semaine dernière à Washington où il a pris part aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Plusieurs accords ont été signés avec ces institutions pour appuyer le programme économique d'Antananarivo. Au micro d'Abdourahman Dia, le ministre malgache des Affaires étrangères, Richard Riandra Mandrat, fait le bilan de cette visite et s'exprime aussi sur le conflit en Ukraine et les relations entre les États-Unis et Madagascar.
Le président de la République souhaitait contribuer d'abord en partageant la politique que nous menons à Madagascar pour la coopération et le financement d'un plan national de redressement qui rejoint bien sûr le plan d'émergence pour Madagascar, mais aussi de procéder à la signature des accords de financement pour accompagner notre pays sur la voie de l'émergence et de la résilience. Vous savez que nous avons passé une période assez difficile avec quatre cyclones successifs et ça fait beaucoup en termes de dégâts. Et donc nous étions ici surtout pour nous assurer que nous avons la confiance de ces institutions de Bretton Woods et fort heureusement nous avons pu bénéficier de leur appui pour les années à venir.
Pour ce qui concerne les relations entre Antananarivo et Washington, quel est un peu l'état des lieux, si on peut dire ainsi?
Nous savons que le contexte actuel de la guerre en Ukraine est assez complexe. Nous sommes tous plus ou moins concernés, directement ou indirectement, par ce qui se passe en Ukraine. Madagascar est sur le continent africain, comme beaucoup de pays africains. Nous avons choisi de ne pas interférer. Donc Madagascar est un pays neutre, mais pas indifférent, notamment par rapport aux désastres humains que nous connaissons maintenant. Alors avec les États-Unis, bien sûr, nous sommes venus ici pour expliquer notre point de vue. Et je peux vous dire que nos rencontres, d'abord avec les responsables de l'USAID, puis du Millennium Challenge Account, avec qui nous avons aussi échangé sur le retour de Madagascar dans le cadre de ce mécanisme MCC, et nous espérons d'ailleurs bénéficier d'un compact total. Nous avons aussi partagé donc notre point de vue avec eux.
Et justement, monsieur le ministre, comment est-ce que ce conflit en Ukraine impacte un peu Madagascar, qui importe une bonne partie du blé, disons, de cette partie du monde en Ukraine et en Russie?
Comme beaucoup de pays, nous risquons bien entendu de connaître les conséquences d'une probable pénurie de matières premières. L'inflation n'est pas à écarter, une inflation mondiale. Dans les mois à venir, il y a un risque véritable. C'est pourquoi nous devons trouver une solution pacifique pour éviter le pire.
Le ministre malgache des Affaires étrangères, Richard Randyamandrat. C'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia et de Mohamedou Humpha. Georges Léonard Sagnou était à la mise en onde et Kelvin Fowler à la console. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.